Bonjour et bienvenue dans l'émission à propos de cette semaine. Beaucoup de choses se sont passées depuis mes dernières nouvelles au sujet du travail de l'Église dans les régions francophones. C'est donc ce que je compte faire aujourd'hui. Mon épouse et moi avons entrepris un long voyage pendant les fêtes divines d'automne. Nous avons d'abord rendu visite à nos frères et sœurs de l'océan Indien. À l'île Maurice, où nous avons passé le sabbat du 20 septembre, puis à La Réunion, où nous avons célébré la fête des trompettes. Depuis La Réunion, nous avons voyagé à Madagascar, puis au Kenya, en direction de la Zambie, où nous avons passé le sabbat suivant avec un petit groupe de nos frères et sœurs. Le long de la frontière entre la Zambie et la République démocratique du Congo, nous avons eu une réunion avec eux. Je leur ai apporté une aide afin qu'ils puissent acheter un petit écran et un dispositif à batterie pour leur permettre de regarder des vidéos de sermons pendant la fête des tabernacles. Ils étaient très reconnaissants pour la visite et pour l'aide que nous leur avons apportée au nom de l'Église. Nous avons ensuite transité par l'Éthiopie, en direction du Rwanda, pour rendre visite à notre ancien sur place, M. Jean-Marie Mundeli, ainsi que son épouse. Ils sont tous les deux confrontés à de très graves problèmes de santé. À ce moment-là, M. Mundeli était véritablement à l'article de la mort. Il n'avait pas pu manger depuis des semaines et il était sur le point de mourir de faim. Peu après notre visite, les médecins lui ont inséré une sonde gastrique dans l'estomac pour lui permettre de se nourrir. Il est en train de reprendre des forces. Et ses jours ne sont pas en danger, même s'il est encore très faible. Madame Mundeli a dû subir une opération de la colonne vertébrale et elle se remet lentement. Nous avions prévu de célébrer la moitié de la fête des tabernacles avec nos frères et sœurs rwandais, en Ouganda, puisqu'il est impossible de le faire actuellement dans leur propre pays. Nous avons pu célébrer 3 jours de fête dans la ville de Ntungamo avant que des policiers et des soldats corrompus n'interrompent nos célébrations et nous arrêtent. Nous avons tous été détenus. Ils voulaient simplement m'extorquer de l'argent pour nous libérer, ce que j'ai été contraint de faire. Mais si j'avais été seul, j'aurais peut-être géré la situation différemment. J'ai dû le faire à plusieurs reprises dans le passé. Mais je ne pouvais pas laisser indéfiniment nos frères et sœurs dans une cellule de prison. J'ai donc payé la caution et nous avons été immédiatement libérés. Ce fut une expérience désagréable, une illustration de la corruption et de la perversité du monde dans lequel nous vivons actuellement. Et cela a toujours été le cas tout au long de l'histoire humaine. En Occident, nous vivons encore aujourd'hui dans une bulle de stabilité, avec une attente du respect de l'état de droit. Mais même au 1er siècle, à l'époque de Jésus, lorsque des soldats vinrent voir Jean-Baptiste et lui demandèrent comment ils devaient manifester leur repentir, Luc chapitre 3, verset 14 dit « Des soldats aussi lui demandèrent, et nous, que devons-nous faire ? » Il leur dit « Ne commettez ni extorsion ni fraude envers personne, et contentez-vous de votre solde. » À cette époque, les soldats commettaient régulièrement des actes de violence contre des personnes sans défense et les accusaient faussement afin de leur extorquer de l'argent. Et c'est exactement ce qui nous est arrivé. Mais nos frères rwandais l'ont supporté avec grâce. Je pense que certains d'entre nous, dans des pays plus respectueux des lois, auraient pu être tentés de se plaindre. Pourquoi Dieu permettrait-il que cela arrive pendant sa fête, alors que nous essayons simplement de lui obéir? Mais nos frères africains n'ont guère d'attente en matière d'équité ou d'état de droit. Ils ne se sont pas plaints, mais ont simplement rendu grâce à Dieu lorsque la délivrance est finalement arrivée. L'un d'eux m'a dit « Gloire à Dieu qui nous a délivrés des mains de ces policiers. » Avant de partir, cependant, j'ai sévèrement réprimandé les policiers corrompus. J'ai brandi mon doigt devant eux et je leur ai dit que Dieu les jugerait pour leurs mensonges et leurs vols. En réponse, l'un d'eux m'a crié que je n'étais pas Dieu et je lui ai répondu que non, je n'étais pas Dieu, mais que je travaillais pour lui. Et Dieu connaissait leur nom et ce qu'ils faisaient, il y aurait un châtiment à moins qu'ils ne se repentent. Je ne sais pas quand Dieu choisira de s'occuper de ces hommes, mais tôt ou tard, il le fera. Nous avons voyagé par la route jusqu'au Rwanda pour prendre notre vol vers Paris, puis nous avons pris une correspondance pour Montpellier, près de l'endroit où nous avons célébré la seconde moitié de la fête des tabernacles. La fête en France s'est très bien déroulée et sans encombre. Nous avons accueilli un groupe merveilleux de frères et sœurs sous un ciel ensoleillé et des températures agréables. Les messages étaient stimulants et la fraternité chaleureuse et encourageante. Les excursions vers des sites d'intérêt historique étaient également très intéressantes. Plusieurs d'entre nous ont passé le sabbat suivant dans la région de Londres. Nous avons passé une agréable journée de fraternisation et partagé un dîner avec un certain nombre de nos frères et sœurs. Peu de temps après, au lieu de rentrer aux États-Unis en avion, un groupe de 15 d'entre nous est retourné en Amérique, à bord du Queen Mary II, le dernier des grands paquebots transatlantiques encore en service. Les paquebots transatlantiques ont une coque plus épaisse que les navires de croisière et des stabilisateurs spéciaux leur permettant de naviguer en toute sécurité sur des océans agités. C'est une expérience unique et en réalité étonnamment abordable. Voir l'Atlantique depuis son centre, au niveau de l'eau, est un événement fascinant. Nous sommes arrivés à New York un vendredi et le lendemain, j'ai prononcé le sermon dans la congrégation du Queens où nous avons passé un sabbat très agréable, comprenant le partage d'un merveilleux repas. Notre pasteur local, M. Kevin Epps, et sa charmante épouse Belinda nous ont réservé un accueil chaleureux et ce fut un plaisir de fraterniser avec nos frères et sœurs de cette région autour de New York. Et enfin, le lendemain, Marjolaine et moi avons pris l'avion pour Dallas. Et vers la fin novembre, M. Mundelli avait retrouvé suffisamment de force pour que nous puissions discuter des plans d'urgence, s'il n'était pas en mesure de reprendre ses fonctions ministérielles, ce qu'il n'a pas encore pu faire jusqu'à présent. J'ai donc repris l'avion pour le Rwanda afin de passer plusieurs jours en réunion avec lui, pour planifier une structure alternative qui nous permettrait de servir nos frères et sœurs dans le pays. Ma visite a été encourageante pour les époux Mundelli et nos frères rwandais, et nous avons pu établir un plan qui nous permettrait de poursuivre notre service auprès de nos frères là-bas. Au cas où, M. Mundelli ne pourrait pas reprendre son nom et fidèle service en tant qu'ancien. Une semaine après mon retour du Rwanda, nous avons tenu la réunion annuelle, en présentiel, du Conseil ministériel d'administration qui a débuté l'après-midi du lundi 8 décembre. Cette session a été précédée d'une demi-journée de réunion matinale avec l'équipe placée sous la direction de notre directeur de l'œuvre internationale pour les régions situées en dehors des États-Unis, M. de Gortschak. Il a demandé à chaque directeur régional et pasteur principal de faire un bref compte-rendu des événements et des tendances dans nos régions respectives. Nous avons ensuite discuté des progrès réalisés dans le cadre du programme international de leadership et de la manière dont nous devrions assurer le suivi. Enfin, une présentation a été faite sur la normalisation de nos procédures budgétaires. Je l'admets, ce n'est pas le sujet le plus passionnant, mais il est nécessaire au bon fonctionnement de nos opérations. Les réunions du CMA ont débuté après le déjeuner. Monsieur Franks a commencé, comme d'habitude, par faire le point sur la situation de l'Église. S'en est suivi une explication et une discussion sur la semaine stratégique et les plans opérationnels pour l'année 2026. La stratégie est une vue d'ensemble des enjeux auxquels l'Église et son œuvre sont confrontées. Les opérations concernent des programmes spécifiques à poursuivre ou à mettre en œuvre. Les deux sont importants pour mener à bien la mission que Dieu a confiée à son Église. Monsieur Franks a présenté le plan stratégique. Ensuite, Monsieur Caiello a présenté le plan d'opération pour les médias. Monsieur Bévid Meyers, le plan opérationnel des services ministériels. Et Monsieur Hortschak, le plan pour les opérations internationales. Le dernier point à l'ordre du jour était la présentation du projet de budget. Ce soir-là, nous nous sommes réunis pour dîner chez les époux Hortschak pour un agréable repas et une chaleureuse convivialité. Mardi matin, nous avons poursuivi l'explication et la discussion du budget proposé. En fin de matinée, nous avons pu procéder au vote sur les plans et le budget qui ont été approuvés à l'unanimité. Monsieur Franks a fait le point sur les plans et le budget, puis sur la construction de notre centre éducatif qui a débuté et devrait être achevé l'année prochaine. Dans l'après-midi, nous avons reçu des rapports de Monsieur Donenson, le président du comité de doctrine, du Dr Ralph Levy sur le travail de l'Institut du Fondement, et de Monsieur Clyde Caiello au sujet des projets pour les opérations médiatiques, puis de Monsieur Franks concernant l'association caritative à but non lucratif, FOI. Nous avons terminé la journée par un rapport de Monsieur Algaret, le conseiller juridique de l'Église. Mardi soir, nous nous sommes réunis chez les époux Franks pour un dîner et un moment de fraternité des plus agréables. Mercredi matin, notre dernière discussion a porté sur la planification de l'avenir, un sujet sur lequel nous revenons fréquemment. Imaginer divers scénarios pour l'avenir de l'œuvre de l'Église, c'est véritablement l'une des activités les plus importantes tant pour notre administration que pour le CMA. Plusieurs d'entre nous l'ont déjà dit, mais je tiens à souligner à nouveau que c'est un grand plaisir de travailler ensemble dans un esprit de fraternité et d'amitié. Cela n'a pas toujours été le cas dans l'histoire de notre Église, c'est pourquoi nous ne tenons pas cela pour acquis. Nous avons hâte de nous réunir et de réfléchir ensemble à la volonté de Dieu concernant notre rôle dans l'œuvre de l'Église. Juste après ces réunions, j'ai pris un vol pour Montréal afin de passer un sabbat avec la congrégation locale et une journée et demie avec M. et Mme Daniel Harper et leurs enfants. M. Harper est le pasteur des congrégations de Montréal et de Toronto et il fait un excellent travail. Nous essayons de nous rencontrer en personne quelques fois par an pour discuter de l'avancement de l'œuvre de Dieu au Canada. Comme vous le savez sans doute, l'hiver canadien est très différent de celui du Texas. Les températures étaient bien en dessous de zéro, avec des averses de neige périodiques, les autoroutes n'étaient pas toutes dégagées et les voitures glissaient dans les rues de la ville, mais tout s'est bien passé lors de ma visite. J'ai passé deux nuits chez eux et nous avons eu des discussions très constructives. À mon retour chez moi, je suis passé de température autour de moins 6 degrés à environ 16 degrés à Dallas. Je peux vous dire que 16 degrés semblaient vraiment doux après quelques jours passés au Canada. Eh bien, ces derniers mois illustrent parfaitement comment l'œuvre de Dieu se poursuit partout dans le monde, des tropiques au Grand Nord, des régions frappées par la pauvreté et la corruption, à certains des endroits les plus riches et les plus stables de la planète. Je suis souvent frappé, lors de mes voyages, par le fait que cela ne peut être que l'œuvre de Dieu. D'appeler des personnes dans des endroits aussi reculés et variés du monde, et pourtant de voir ces personnes dans toutes ces régions, unies par une compréhension et un amour de la vérité de Dieu, ainsi que par un ardent désir de voir son royaume être établi. Nous pouvons tous être reconnaissants d'avoir été appelés à faire partie de cette œuvre. Eh bien, ce sera tout pour cette semaine. Il n'y aura pas de à propos pendant les deux prochaines semaines, en raison de la fin de semaine familiale d'hiver et des fêtes de fin d'année du calendrier romain. Notre bureau sera donc fermé pendant cette période. Et maintenant, de la part de toute l'équipe du siège, je vous souhaite à tous un très reposant sabbat.